On va reparler, et on a parlé tout à l'heure avec Laurent Danneville de la qualité de l'eau, et on va en reparler avec Julien Fiquepron, parce qu'il a mené il y a quelques années un travail de partenariat avec les acteurs de l'eau sur ce thème, et ça vaut le coup d'en tirer les conclusions. Oui.
Marche comme ça, c'est très bien. Donc, au niveau du timing, où en êtes-vous? Est-ce qu'on va plutôt
en fin de journée, alors tu vas à l'essentiel.
Ouais, on va faire comme ça. Déjà, on garde la lumière, c'est mieux, je pense. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce qu'on a fait au niveau de la forêt privée sur l'eau potable. Donc, une action qu'on a commencée en 2006. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu travailler sur l'eau potable? Donc, c'est à partir des constats suivants, notamment vu des acteurs de l'eau, on constatait que les problèmes de qualité d'eau persistaient, que les traitements et les changements de ressources par rapport aux problèmes de pollution coûtaient cher. Et par rapport à ça, on voyait aussi que les captages d'eau en milieu forestier étaient plutôt recherchés pour leur eau de bonne qualité et puis aussi par le fait que cette eau était peu coûteuse. Alors après, constat du côté des acteurs forestiers, donc on voyait que la protection de la ressource en eau pouvait impliquer des vraies adaptations de la gestion forestière avec les servitudes. Et donc on voyait qu'on pouvait ainsi on pouvait renforcer la protection de la ressource en eau et donc dès lors avoir une action directe sur un service marchand, celui de l'alimentation en eau potable. Et donc la question c'était comment est-ce qu'on pouvait mettre en valeur ce service ? Ah, magnifique, merci. Alors, on a eu plusieurs projets, que ce soit au niveau européen, au niveau national ou au niveau régional. Donc, je cite par exemple le projet Sylvamed, qui était avec le CRPF PACA, et puis au niveau régional, le projet Gestofort Midi-Pyrénées. Donc, un projet qui avait été initié par notre collègue Philippe Bertrand. Et donc, donc on voulait saluer sa mémoire et puis tout son investissement sur les projets au service des partenariats pour la forêt et l'eau. Alors, dans ma présentation, je vais suivre les différentes phases de nos travaux sur la forêt et l'eau. Une première phase sur l'évaluation économique, donc en quoi l'eau forestière pouvait être une richesse. Après, on a travaillé sur des questions juridiques, sur la place du contrat par rapport à la réglementation. Et dans un troisième temps, on a essayé de développer des partenariats avec les acteurs de l'eau potable. Alors, on a commencé nos travaux d'évaluation économique en faisant un constat que, en France, on avait l'impression qu'il y avait des zones où l'eau était plutôt chère, et puis d'autres secteurs différents où il y avait plutôt plus de forêts. Et donc, en l'état, on n'était pas capable de voir si c'était une simple corrélation ou s'il y avait un lien de causalité entre les deux. On a fait des travaux de modélisation et on a montré que plus de forêts sur le territoire, c'était favorable à une eau de meilleure qualité et aussi à une eau moins chère. Donc je vous passe la modélisation. Alors après, on peut s'interroger aussi sur ce qu'on nous vend quand on achète de l'eau en bouteille. Donc on nous vend un contenant qui est plus pratique, mais souvent on vous vend aussi une image. Et donc l'image est souvent plutôt sympa, ça va être les cimes des Alpes, ça va être les volcans d'Auvergne. Et à côté de ça, on peut se demander ce que les gens ont en tête quand ils boivent de l'eau du robinet. Et donc, il y a une enquête qui a été menée durant plusieurs années et le résultat était souvent était convergent. Plus de la moitié des Français pensaient que les eaux usées étaient retraitées directement en usine pour produire de l'eau potable. Et donc ça revient à cette image-là, à l'origine de l'eau du robinet. Alors c'est une idée fausse, mais dès lors on se disait que ça pouvait être intéressant de mettre en valeur le rôle de l'origine forestière. Donc quelle est la valeur d'une eau potable de bonne qualité dès l'origine grâce à la forêt? Et donc pour ça, on a mené un travail d'enquête dans le secteur de Nancy, où on a interrogé la population qui avait deux origines d'eau différentes. La première, c'était un captage d'eau superficielle dans la Moselle. Alors, un environnement plutôt pas trop mal, hein, parce que vous avez de la forêt juste à côté. Mais par contre, ça nécessitait un traitement complexe pour potabiliser l'eau. Et le deuxième secteur, c'était un captage en secteur forestier avec une eau naturellement potable, sans besoin de traitement complexe. Donc on a vérifié que les ménages étaient prêts à payer plus pour avoir ou conserver une eau du robinet d'origine forestière. Alors l'objectif, c'est pas de faire payer plus cher les gens qui boivent de l'eau issue de forêt, mais c'était surtout une validation de l'intérêt de mettre en valeur cette origine forestière, de travailler sur la communication, de développer des partenariats et pourquoi pas un label aux forestières. Alors après, on a travaillé sur les boisements de protection de captage, notamment sur le secteur de Rennes, et on a travaillé aussi plus largement au niveau de la Bretagne, puisqu'il y a eu plus de 1200 hectares de boisements de protection de captage qui ont été installés. Et donc on a vérifié que les collectivités étaient prêtes à payer des sommes substantielles pour bénéficier de la protection forestière à proximité de leur captage. Donc là sur Rennes, c'était sur près de 80 hectares, plus de 6000 euros qui étaient investis. Donc ça, ce sont des coûts de protection, et ces coûts de protection étaient 10 fois moins élevés que les dépenses évitées qui étaient liées à un changement de ressources. Donc c'était une interconnexion avec d'autres captages. Donc là, on voyait que la collectivité était prête à payer, acheter le foncier et payer les travaux de boisement pour bénéficier de la protection forestière. Alors après, on s'est aussi attaché à l'intérêt des captages de sources en forêt. Donc là, on a travaillé en Haute-Savoie sur un syndicat d'eau qui utilisait de l'eau issue de captage de captage de sources en forêt. Et on a comparé ça au coût de fonctionnement d'un pompage dans le lac Léman. Et donc on voyait que le ratio, c'était à peu près 50 fois plus cher de pomper l'eau dans le lac. Donc ça montre qu'il y a un vrai intérêt à utiliser et à pérenniser ces captages de sources en forêt. Alors c'était surtout des dépenses d'énergie qui justifiaient ça, parce que les captages de sources, vous avez l'eau gravitaire qui descend directement, et puis il y avait peu de traitement en plus. Donc c'est une richesse, mais c'est aussi des coûts, l'eau en forêt. Là, je prends l'exemple de la commune de Massevaux, qui est donc dans le Haut-Rhin, sur le massif vosgien. Là, ils ont une gestion forestière qui est dédiée à la protection des captages, et on a vu que les surcoûts de gestion pouvaient atteindre 40 à 80 euros par hectare et par an. Donc ça, c'est pas négligeable pour des forestiers de consentir à ces surcoûts. Et puis là, c'est hors inflation, hein. C'était il y a 15 ans, donc ce serait encore plus cher. Donc là, c'était une forêt communale et un service d'eau en régie. Donc la commune était chez elle, elle pouvait consentir ça comme elle voulait. Mais donc on voit que ça peut représenter des coûts substantiels d'optimiser la gestion forestière par rapport à la protection de l'eau. Alors, un bilan rapide sur l'aspect économique. En étant trivial, on peut dire que c'est une richesse et qu'il y a moins bien, mais c'est plus cher. Et donc ça, c'est lié au double intérêt de la forêt, une eau naturellement potable et des économies sur les coûts de traitement. Se pose maintenant la question du financement de ces surcoûts de gestion. Et donc ça, c'est pas encore, l'équilibre n'est pas encore atteint à ce niveau-là. Et donc maintenant, je vais vous parler de réglementation, le deuxième volet. Donc on a constaté qu'il y avait un besoin de rééquilibrer les politiques de l'eau, parce qu'elle reposait uniquement sur une procédure réglementaire, la procédure de périmètre de protection de captage, et que c'était une procédure qui était souvent mal connue et dont le suivi restait assez aléatoire. Hein, parce que quand on est propriétaire forestier, tous les propriétaires forestiers ne sont pas au courant qu'ils sont dans un périmètre de protection, ils ne sont pas non plus au courant des servitudes qui s'appliquent sur leur forêt. Donc c'est une procédure qu'il faut faire vivre. Et donc il y a des améliorations apportées à ce niveau-là. Et donc nous, ce que l'on proposait, c'était plus de concertation, Donc que les forestiers soient consultés en amont de ces démarches de protection de captage. C'est déjà le cas dans pas mal de régions où l'avis des CRPF est demandé lors des projets d'instauration de périmètres. Et on a aussi mis en avant le besoin d'indemniser les servitudes quand elles impactaient la gestion forestière. Et le deuxième volet que l'on proposait, c'était de développer des contrats de manière complémentaire. Et donc ces contrats-là pouvaient toucher différents services, donc soit l'augmentation du couvert forestier, donc avec des boisements, soit des consignes de gestion sylvicole particulières, donc par exemple du débardage par câble, et après aussi des questions d'animation et de coordination de la gestion. Je vais vous en parler dans l'exemple suivant. Et puis le stade le plus ambitieux, c'était de développer un label eau forestière, mais on n'a pas été jusque là parce que ça aurait été un label que les forestiers auraient dû payer par eux-mêmes, et donc c'était pas l'esprit initial. Alors, j'en viens au partenariat. Donc, on a fait un projet soutenu par France Bois Forêt, l'interprofession de la forêt et du bois, avec France Silva et le CNPF. Et donc, je vais vous parler du site sur lequel on a eu le partenariat le plus abouti. Donc, c'est le site de Thonon Agglomération maintenant. C'est là où on a fait aussi l'étude de différentiel de coûts, où les captages forestiers étaient 50 fois moins chers, moins chers à exploiter. Alors là, vous avez le schéma de la source emblématique du syndicat d'eau, donc avec les trois périmètres emboîtés, l'immédiat, le rapproché et l'éloigné. Et donc là, vous voyez le foncier sur le périmètre de protection rapproché qui est très morcelé. Vous avez sur une cinquantaine d'hectares, vous avez plus de 100 propriétaires et 4000 m² de moyenne pour les parcelles. Donc là, le problème pour le syndicat d'eau, quand il y a un souci en forêt, c'est vers qui je me retourne, quoi. Ils n'avaient pas d'interlocuteur, donc il y avait un besoin de créer une interface entre le syndicat d'eau et les propriétaires forestiers. Et on va dire qu'on a eu la chance qu'il y a eu un problème, il y a eu un accident de qualité d'eau lié à la gestion forestière sur ce secteur-là. Alors j'ai dit une chance parce qu'il n'y aurait pas eu de problème, il n'y aurait pas eu de partenariat. Donc il y a eu une pollution d'eau, un accident de turbidité. Et là, le syndicat d'eau aurait pu jouer la voie contentieuse, mais il a préféré être dans le partenariat. Et donc ils ont créé une association syndicale qui a vocation à regrouper les propriétaires forestiers à l'amont des sources. Donc là, à l'heure actuelle, il y a plus d'une centaine d'adhérents pour 160 hectares donc qui ont rejoint l'ASL forestière du Montfort-Chat. Donc ça a permis de faire du regroupement foncier. Ça a permis aussi de mettre en place un plan simple de gestion concerté, donc de donner de la visibilité sur les travaux forestiers qui allaient se faire à l'amont des captages. Et puis aussi pour les propriétaires forestiers, avant sur 4000 m², c'était soit je fais rien, soit je coupe tout. Maintenant, ils ont accès à une gestion forestière un petit peu plus fine. Donc ce sont des partenariats gagnant-gagnant. Il y a eu la création d'une route forestière dont l'autofinancement a été apporté par le syndicat d'eau. Donc là, c'est le syndicat d'eau s'assure que la route forestière va se créer dans de bonnes conditions par rapport à la protection du captage. Et puis après, les forestiers, ils bénéficient d'une infrastructure de desserte qui est adaptée. Donc c'est également un point positif. Alors, il y a eu un cahier des charges sur les travaux d'exploitation forestière et les surcoûts sont indemnisés à hauteur de 15% sur les ventes de bois. Donc, il y a aussi un intérêt pour les propriétaires forestiers d'avoir des travaux qui se passent dans de bonnes conditions, que les sols soient respectés, que les arbres ne soient pas blessés. Il y avait aussi un intérêt direct pour les propriétaires. Donc, une dernière action, c'était la prise en compte de 25 à 50% du coût des petites plantations qui passaient en dehors du champ des aides classiques. Donc là, le fait d'être adhérent à l'ASL, ça permettait d'avoir un financement sur ces petits chantiers. Et donc toutes ces actions ont été, on va dire, rassemblée via la signature d'une convention de soutien entre le syndicat d'eau, maintenant c'est Tonon Agglomération, ça a changé de nom depuis, et l'association syndicale. Donc voilà un très bel exemple de partenariat gagnant-gagnant. Là, je vous remettais rapidement le guide dont Laurent Danneville vous a parlé ce matin. Donc ça, ça nous a permis de valider des recommandations qui permettent de concilier l'exploitation forestière et les captages d'eau. C'est-à-dire qu'on a veillé à ne pas se retrouver dans des impasses techniques. Et on peut tout à fait faire de la gestion forestière et protéger efficacement l'eau au même endroit. Donc, je vous ai parlé de tout ce qui se passait bien, mais tout ne se passe pas bien. Il y a des freins au développement du partenariat entre forestiers et acteurs de l'eau. Donc, côté acteurs de l'eau, ce qu'on entend souvent, c'est le fait que la forêt, c'est pas un problème et que la réglementation est suffisante. Donc, ils ne cherchent pas forcément à aller beaucoup plus loin. L'autre frein, c'est le fait que l'action des acteurs de l'eau porte en priorité sur des captages dits prioritaires, donc où il y a des problèmes de pollution diffuse, et par définition, ce sont des captages qui ne sont pas trop forestiers. Et puis, on voit aussi que sur les services environnementaux, il y a un écart assez important dans le discours entre les déclarations qu'on peut entendre à l'international sur les paiements pour services environnementaux et puis les décisions opérationnelles, quand on essaie de développer les partenariats localement, l'ambition est moins importante. Il y a aussi des freins du côté des forestiers. Alors, il y a des réticences à s'engager, parce que ça peut représenter des contraintes supplémentaires pour les forestiers. Et donc, certains forestiers préfèrent bien faire sans le faire savoir, c'est-à-dire appliquer prendre des précautions, mais sans s'engager dans des contrats formels. On a eu aussi un positionnement qui a été différent entre forestiers sur la valorisation des services environnementaux. Côté forêt publique, il y avait une volonté de déjà faire reconnaître ce qui se faisait déjà de bien en forêt publique, et donc d'avoir une reconnaissance sur la gestion existante. Du côté de la forêt privée, on essayait plutôt de mettre en avant l'additionnalité, c'est-à-dire le geste plus, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour protéger la ressource en eau et développer un partenariat à partir de ça. Donc le fait qu'on n'y soit pas allé avec le même discours, ça a peut-être gêné aussi l'avancée de ces travaux-là. Et puis après, ce qu'il ne faut pas négliger, ce sont les coûts d'animation importants pour ces démarches. Alors, en conclusion de ces travaux sur l'eau potable, on voit qu'en forêt, il y a un haut niveau de services de protection des captages, et donc il y a plus d'enjeux dans le secteur des captages de forêt de montagne. C'est là où il y a le plus intérêt à prendre des précautions. Donc les forestiers peuvent renforcer la protection des captages, c'est un service qui peut être additionnel, et il y a des outils techniques disponibles comme avec le guide. Mais donc on voit que pour l'instant, la demande est assez limitée pour ce service. On s'adresse à une élite de services d'alimentation en eau potable qui sont vraiment prêts à développer la prévention. Et donc la priorité pour nous, ça a été d'abord d'améliorer la réglementation, le fait que la forêt soit bien prise en compte dans les démarches réglementaires de protection de captage, parce que c'était déjà un facteur de mobilisation efficace du bois. Quand on se retrouve face à une réglementation inapplicable, c'était un gros problème. Donc on a essayé d'abord d'adresser ce problème-là. Alors sur les partenariats, on a une stratégie de développement en trois points. On est toujours prêt à développer des partenariats ciblés, simples, à l'échelle d'un service d'alimentation en eau potable. On a aussi ciblé des ressources à plus forte valeur ajoutée, notamment avec des entreprises type eau minérale ou eau thermale. Donc ça, on a deux projets en cours à ce niveau-là. Et puis l'autre stratégie, c'est de valoriser un bouquet de services environnementaux sur un territoire pour mutualiser tout ce qui était coût d'animation, donc entre plusieurs services, biodiversité, carbone et eau. Et donc, la nouveauté au niveau contexte, c'est tout ce qui est changement climatique, parce que le frein qu'on voyait, le fait que la bonne qualité de l'eau était perçue comme acquise en forêt par les acteurs de l'eau, ça c'est un constat qui n'est plus forcément toujours valable, qui est plus toujours d'actualité. Quand on voit les menaces incendies, dépérissement, les sols peuvent être fortement exposés et la ressource en eau également. Et donc on pense que ces enjeux-là peuvent être une source de partenariat entre forestiers et acteurs de l'eau autour de l'adaptation des forêts au changement climatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Julien. Bon, il y a aussi des partenaires.